Nous venons de passer une année en compagnie de Moïse et je vous propose ce matin de changer complètement d'horizon pour commencer une nouvelle série. Ça arrive. Une nouvelle série qui nous amène quelques 1400 ans après Moïse, au temps de Jésus. Une nouvelle série où nous allons cheminer pendant un certain temps avec un personnage haut en couleur, puisqu'il s'agit de Pierre. Pierre le pêcheur, devenu disciple puis apôtre, Pierre le pêcheur qui deviendra pêcheur d'hommes. C'est donc une série bien différente dans laquelle nous nous engageons ce matin, puisque nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et que nous passons de la réalité du peuple d'Israël à celle des disciples de Jésus, dont nous sommes si nous avons mis notre foi en Jésus. Quelques mots sur notre personnage. Qui est-il ? Soulignons tout d'abord que Pierre, le disciple, ou l'apôtre du Seigneur, fait partie des personnages bibliques qui sont souvent connus, même par celles et ceux qui ne connaissent pas grand-chose de la Bible. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il est considéré par beaucoup comme le premier pape, le premier évêque de Rome. Et puis sans doute parce que Pierre est un personnage attachant. Avec son tempérament de feu, son caractère passionné, sa spontanéité, son enthousiasme, même s'il est parfois mal dirigé, avec son assurance et son courage, avec sa sincérité, avec son entièreté, mais aussi avec ses impatiences, avec ses peurs et ses doutes, avec sa trop grande confiance en lui-même, son arrogance parfois, avec ses faiblesses, avec son humanité, tout simplement. Et c'est sans doute parce qu'il nous ressemble et que nous lui ressemblons parfois qu'il nous touche, qu'il nous attendrit, que nous nous identifions à lui et qu'il nous devient attachant. Soulignons ensuite quelques éléments biographiques concernant Pierre, tels que nous les trouvons dans les évangiles. Avant de s'appeler Pierre, notre personnage s'appelait Simon ou Siméon. Et c'est Jésus qui va changer son nom en Céphas. Céphas, c'est de l'araméen qui est traduit en grec par Pétros, qui donne en français Pierre. Et dans le message de ce matin, je vais naviguer entre Simon et Pierre, Pierre et Simon, parfois Simon-Pierre. Voilà, c'est toujours la même personne. Simon-Pierre est né à Bethsaïda. C'est une petite localité de Galilée, au nord de la Galilée, au nord de la mer de Galilée. Plus tard, Pierre va déménager à Capernaum. Et c'est là, dans sa maison, que Jésus va guérir sa belle-mère, ce qui implique que Pierre était marié. Pierre avait un frère, au moins un, appelé André, qui sera aussi disciple de Jésus. Et c'est d'ailleurs par André que Simon va rencontrer et viendra au Seigneur. Pierre et son frère André avaient pour métier la pêche. Ils étaient pêcheurs, sans doute, de père en fils, comme ça se faisait. Et ils étaient associés à Zébédée et à leur fils, c'est-à-dire Jacques et Jean, deux autres disciples de Jésus. Les affaires devaient certainement bien marcher pour Pierre et André, puisque la maison de Pierre et André à Capernaum était suffisamment grande pour recevoir non seulement sa famille, leur famille, mais aussi de temps en temps le Seigneur et tous les disciples. Notons encore qu'il est dit de Pierre dans le livre des Actes qu'il faisait partie des gens du peuple sans instruction. Et on comprend généralement que cela veut dire que Pierre n'était pas instruit d'une manière générale. C'était un ignare, pense-t-on. En fait, Pierre a reçu l'éducation juive comme tous les enfants, tous les garçons de son époque. Le sens est sans doute plutôt qu'il était sans instruction à l'école des rabbins, puisque l'étonnement des chefs religieux qui font cette remarque qu'il est sans instruction, la font au moment où ils sont étonnés de la connaissance que Pierre et Jean avaient des Écritures. Le caractère impétueux de Pierre va rapidement en faire un meneur, le meneur des 12 disciples, même si les autres ne lui ont pas forcément concédé cette position. Quoi qu'il en soit, Pierre est le disciple le plus en vue dans les évangiles. C'est lui qui est le plus souvent cité, et des 4 listes de disciples qui existent dans les évangiles et au début du livre des Actes, c'est toujours le nom de Pierre qui est cité en premier. Ajoutons encore qu'il est souvent le porte-parole des disciples, et d'ailleurs Jésus s'adresse régulièrement à lui comme représentant les disciples. Son rôle de meneur apparaît par exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on verra sans doute dans cette série, quand les collecteurs de la taxe du temple vont s'approcher de lui pour lui demander pourquoi leur maître ne paye pas cet impôt-là. Notons enfin que Pierre fait partie du cercle des intimes de Jésus, avec Jacques et Jean. À une reprise, il y a aussi André, mais c'est Pierre, Jacques et Jean, généralement. Et c'est comme ça que Pierre va se retrouver aux premières loges pour assister à des événements importants auxquels les autres disciples n'assistent pas. La résurrection de la fille de Jaïrus, la transfiguration de Jésus, et puis l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Des événements qui, sans aucun doute, ont profondément marqué la foi de Pierre. Après ces quelques éléments biographiques, je vous propose maintenant de considérer le début de l'histoire de Pierre dans les évangiles. Quand Jésus appelle Pierre à le suivre, quand Pierre décide de suivre Jésus, quand Pierre devient disciple du Seigneur. En réalité, l'appel de Pierre se passe en 2 temps. Du moins, les évangiles nous en rapportent 2. Peut-être y a-t-il eu d'autres épisodes. Il y a une première fois au bord du Jourdain, et puis il y a une deuxième fois au bord du lac. Commençons par la première rencontre entre Pierre et Jésus qui a lieu au bord du Jourdain. Et je vous invite à lire avec moi, ou vous pouvez suivre sur l'écran, le texte qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, je lis les versets 35 à 42. Jean 1, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il s'agit de Jean-Baptiste. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean, eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le récit commence avec 2 disciples de Jean-Baptiste, André et Jean. André est nommé dans le texte, dans la suite du texte, au verset 40. Jean ne l'est pas, mais c'est comme ça à chaque fois dans l'évangile de Jean, quand il est question de lui, il ne se nomme pas. 2 disciples donc, qui vont se détacher de Jean-Baptiste pour s'attacher à Jésus. Quand Jean-Baptiste dit en voyant Jésus qui passe, « Voici l'agneau de Dieu ». Le jour précédent, quelques versets auparavant, au verset 29, au même endroit, Jésus avait déjà dit de Jésus, Jean, avait déjà dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu », il avait ajouté, « qui enlève le péché du monde ». Nous assistons ici à une passation de relais. Par ces paroles, Jean-Baptiste signifie à André et Jean, qui étaient ses disciples, que Jésus est le Messie et que c'est lui qu'ils doivent suivre maintenant. Lui, Jean-Baptiste, n'est que le précurseur. Il faut qu'il diminue et que Jésus croisse. André et Jean ont trouvé le Messie, celui que les prophètes ont annoncé, et que le peuple a attendu depuis des siècles. Ce Messie est maintenant là. Quelle nouvelle ! Imaginez un instant, pour le juif de l'époque, c'est le buzz des buzz. Le Messie est enfin là. Et une nouvelle importante, ça se partage. C'est ainsi qu'André va trouver son frère Simon pour partager avec lui cette nouvelle extraordinaire, cette bonne nouvelle. Verset 41, il trouve d'abord son propre frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « le Christ ». Et André conduit Simon à Jésus. Simon-Pierre était-il dans le coin ? Ou a-t-il fallu le chercher en Galilée ? Le texte ne donne aucun détail. Ce qu'il précise, c'est simplement qu'André a conduit Simon, son frère, à Jésus. Le texte est très sobre sur cette première rencontre. Un seul verset, le verset 42. Jésus le regarda et dit, « Toi, tu es Simon, fils de Jean, eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Quand c'est sobre, on pourrait dire que chaque mot compte double d'une certaine manière. Quand c'est sobre, c'est qu'on n'a retenu que l'essentiel. Et que dit l'évangéliste ? Premièrement, que Jésus le regarda. Et ce qui est intéressant ici, c'est le sens de ce mot en grec qui veut littéralement dire fixer intensément son regard sur quelqu'un. Jésus a fixé intensément son regard sur Pierre. Comme l'écrit Alfred Kuhn, c'est un regard qui jauge, estime, va jusqu'au fond de l'être. Jésus n'a pas besoin qu'on le renseigne sur quelqu'un. Il voit les cœurs. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean va dire quelques versets plus loin, au chapitre 2, verset 25. En effet, Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Jésus le regarda. Et Jésus sut qui était Simon. Il sut quel était son besoin profond. Comme l'écrit encore Alfred Kuhn, Jésus a su quel était le besoin profond de Simon, être stable et solide comme une pierre, il le lui promet par ce nom nouveau qu'il lui donne. La deuxième chose que l'évangéliste dit, c'est ce changement de nom que Jésus annonce, tu seras appelé Céphas. Pour bien comprendre, pour bien saisir le sens de ce changement de nom, il faudrait sans doute plutôt traduire Céphas par roc que par pierre. Simon l'instable, le fluctuant, va devenir Simon le roc. Simon Pierre. Simon le solide, Simon un des piliers de l'Église après la Pentecôte. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, ce n'est pas pour tout de suite. Et vous remarquez que Jésus emploie le futur ici. Tu seras appelé Céphas. Avant ça, il y aura bien du chemin à parcourir. Ce n'est que la première rencontre. Mais Jésus place déjà là cette promesse, cette perspective devant Simon. La deuxième partie de l'appel se passe cette fois-ci en Galilée, au bord du lac de Génézareth, qu'on appelle aussi la mer ou le lac de Galilée ou le lac de Tibériade. On trouve les trois appellations. Nous ne savons pas exactement combien de temps s'est écoulé entre les deux rencontres. Alfred Kuhn estime le délai, l'intervalle entre les deux à 15 mois. Les différents commentateurs que j'ai consultés, ça va grosso modo de 9 à 15 mois. Ce que nous savons, c'est que suite à la première rencontre, Simon-Pierre et les premiers disciples, Jésus va en appeler d'autres tout de suite après, il y a donc André, Jean, Philippe, Nathanaël, ces premiers disciples ont suivi Jésus pendant un certain temps. C'est ce que nous pouvons lire dans la suite du texte de Jean. Combien de temps ont-ils suivi Jésus? Le texte ne donne aucune indication. Ce que nous savons, c'est que pendant ce temps-là, ses premiers disciples ont entendu Jésus enseigner, ils l'ont vu faire des miracles, en particulier le premier, celui des noces de Cana. Et c'est d'ailleurs après le miracle de Cana, que nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 11, que ses disciples mirent leur foi en lui. Ses disciples mirent leur foi en lui. Et puis, à un moment donné, il a fallu retourner à ses occupations. Ils avaient des bouches à nourrir, un commerce à faire tourner. Et Simon-Pierre est retourné exercer son métier de pêcheur avec son frère André et avec leurs associés, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Nous n'avons aucun détail sur la manière et sur le moment de cette séparation entre Jésus et les premiers disciples, et ses premiers disciples. La deuxième partie de l'appel que Jésus adresse à Simon-Pierre et qui va faire de lui définitivement son disciple se passe donc au bord de ce lac de Génézareth. Là, Jésus est pressé par la foule, et pressé par la foule, il choisit de monter sur la barque de Pierre pour pouvoir continuer à enseigner. Je vous invite à lire ce deuxième texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, on le trouve aussi dans Matthieu et dans Marc, mais dans des formes plus concises. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisit les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jésus est donc pressé par la foule. Elle est là pour entendre la parole de Dieu, mais dans ces conditions-là, Jésus ne peut pas enseigner. Près de là se trouvent deux barques, celle de Simon et André et celle de Jacques et Jean. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre et ils sont en train de laver leurs filets quand Jésus demande à Simon de l'éloigner un peu du rivage afin qu'il puisse enseigner tranquillement la foule. Puis quand Jésus a fini d'enseigner la foule, il formule une demande surprenante à Simon. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » La première partie de la réponse de Pierre, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre », peut se comprendre de différentes manières. Est-ce que Simon a voulu dire à Jésus qu'il était fatigué après une longue et infructueuse nuit de pêche? Est-ce qu'il a voulu lui faire un reproche? Est-ce qu'il a seulement voulu dire à Jésus qu'il n'y avait pas de poisson dans ce coin, que c'était peine perdue que de jeter les filets? Ils avaient essayé toute la nuit. Est-ce qu'il a voulu dire à Jésus que c'était lui l'expert en matière de pêche? « Seigneur, tu devrais savoir qu'on ne pêche pas le jour, mais la nuit. » Mais à l'évidence, Jésus a déjà du crédit auprès de Simon-Pierre. Il a déjà entendu Jésus à de nombreuses reprises. Il l'a déjà vu à l'œuvre accomplir toutes sortes de miracles. Et juste avant, le texte nous dit que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Quel que soit le sens de la première partie de la réponse, la seconde, quant à elle, traduit la confiance que Pierre a déjà mise en Jésus. Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ce petit mot « mais » traduit que la confiance est plus grande, plus forte que la fatigue ou le doute. Et Simon et André jettent leur filet comme Jésus le leur a demandé. Et le miracle se produit. Les filets sont pleins à craquer. Il faut l'aide des fils de Zébédée dans l'autre barque car les filets se déchirent. Au final, il y a tellement de poissons que les deux bateaux sont remplis et qu'ils s'enfoncent. Quel miracle! Imaginez un instant être le spectateur d'un tel prodige, avec tout ce que cela implique sur la personne de Jésus. Simon-Pierre prend à ce moment la conscience, comme jamais jusqu'alors, de qui est Jésus. Et ce qu'il dit ensuite témoigne de cela. Et que dit-il ? Au verset 8, Simon tombe à genoux et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Souvenez-vous, comment est-ce qu'il avait appelé Jésus au verset 5 ? Il l'avait simplement appelé maître. Maître, un mot très général. Mais maintenant, il dit, « Seigneur. » Et ce mot-là, ce n'est pas un mot comme ça parmi d'autres. Seigneur, c'est le nom que les Juifs donnaient à l'Éternel, à Dieu. Simon-Pierre vient de comprendre quelque chose de la divinité de Jésus. Il vient de comprendre quelque chose de sa propre nature pécheresse. Et il tombe à genoux. Il est saisi d'effroi. Et ceux qui sont avec lui aussi d'ailleurs. et il demande au Seigneur de s'éloigner de lui. Je suis un homme pécheur. En comprenant qui est Jésus, Pierre comprend aussi qui il est. Son indignité lui saute au visage. Son état de pécheur aussi, de pécheur aussi. Si Jésus voit les poissons dans l'eau, alors il voit certainement mon cœur rempli de péché. Et il se jette aux pieds de Jésus, seule attitude convenant devant Dieu. Il se jette à ses pieds et demande à Jésus de s'éloigner. Et que fait Jésus ? Il s'éloigne. Non, il ne s'éloigne pas. Au contraire, il reste. Il reste et il rassure Simon. « N'aie pas peur !» lui dit-il. Jésus aurait pu ironiser. « Tu vois qu'il y avait du poisson. » Il aurait pu critiquer Pierre. « Pourquoi as-tu douté ?» Il aurait pu lui faire la leçon. « Pierre, tu dois apprendre qu'il faut toujours me faire confiance. » Mais rien de tout cela. Simplement, n'aie pas peur. Dieu pourrait nous écraser, Jésus aussi. Il pourrait nous rejeter à cause de notre péché. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour rejeter, mais il est venu pour tendre la main. Il est venu pour pécher les pour sauver les pécheurs. « N'aie pas peur, dit Jésus à Simon-Pierre. » Et après avoir dit des paroles pour apaiser les cœurs saisis d'effroi, Jésus va les appeler à le suivre. C'est les textes parallèles de Matthieu et de Marc qui le soulignent. Marc 1, verset 17, par exemple, Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Dans notre récit, Luc décide de ne parler que de Pierre. N'aie pas peur, dit Jésus à Pierre. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. On connaît mieux l'autre traduction, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus réoriente la vie de Pierre et la vie de ses acolytes. Il est pêcheur, il va devenir pêcheur d'hommes. Il va prendre des hommes qui sont spirituellement morts pour les amener à la vie, à la différence des poissons vivants qu'il prend pour les faire mourir. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et c'est à la Pentecôte, avec la venue de l'Esprit-Saint, que commencera véritablement pour Pierre et pour les autres apôtres l'accomplissement de cette parole. Nous lisons dans Acte 2, verset 41, après la prédication de Pierre, « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. » Comprenez, à l'Église. 3000 personnes. Une autre pêche miraculeuse. Pour celui qui commençait alors, à ce moment-là, véritablement son ministère de pêcheur d'hommes. Oui, la réorientation est totale. Jusque-là, ils avaient suivi Jésus en pointillé. Jusque-là, ils avaient suivi, mais ils n'avaient pas quitté. Et maintenant, nous lisons au verset 11, « Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. » J'aimerais terminer avec quelques prolongements, quelques applications. Et la première chose que je voudrais souligner concerne l'importance du témoignage. Souvenez-vous, dans le premier texte de l'évangile de Jean, André est allé trouver Simon pour lui dire quoi ? Nous avons trouvé le Messie. Et ensuite, André a conduit Simon à Jésus. Chers amis, Dieu a voulu que les choses de la foi se transmettent. Alors, bien sûr, la foi est un don de Dieu. Ce n'est pas la foi que nous transmettons. C'est le témoignage de la foi que nous transmettons. Mais pour cela, il faut que des hommes et des femmes témoignent, parlent, racontent ce qu'ils savent, ce qu'ils croient, ce que Dieu a fait dans leur propre vie. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, écrit « Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi ? Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer ? Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer ? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé ? » Depuis toujours, Dieu a voulu que la transmission se fasse par ceux qu'il envoie, ceux qu'il appelle à le suivre, qu'il appelle à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que d'autres entendent, afin que d'autres croient, afin que d'autres invoquent Dieu, et afin que d'autres proclament et témoignent de leur foi. Qui est Jésus pour moi ? Est-il mon Sauveur et mon Seigneur ? Est-il celui en qui j'ai mis ma confiance pour mon salut ? Si je réponds oui à ces questions, par quoi est-ce que je réponds à ces autres questions ? Est-ce que je garde cette bonne nouvelle pour moi ? Ou est-ce que je la partage autour de moi ? Est-ce qu'il m'arrive à moi aussi de dire à quelqu'un « J'ai trouvé le Messie » ? Alors on ne dira peut-être pas les choses comme ça. J'ai trouvé celui qui a changé ma vie. Le deuxième prolongement, je suis un tout petit peu plus long, mais c'est le début de la série. Le deuxième prolongement, et les deux suivants, et on arrêtera là, concerne suivre Jésus, et même bien suivre Jésus. Pour bien suivre Jésus, je dois d'abord comprendre qui il est. On peut suivre Jésus de bien des manières. On peut être juste curieux. Il y a de la lumière, on regarde ce qui se passe. On peut être intéressé, mais on ne veut pas s'engager. On peut être juste sympathisant, on aime l'ambiance, etc. Mais pour véritablement suivre Jésus comme disciple, il faut comprendre qui est Jésus. Bien évidemment, nous ne comprenons jamais tout, et certainement pas tout de suite. Il y a bien des choses que nous corrigeons au fur et à mesure, parce que nous les avons mal comprises. Tout ça, c'est normal, c'est la vie. Ceci dit, la véritable suivance du Christ commence en comprenant qui il est vraiment. Et c'est d'une certaine manière ce qui s'est passé dans nos deux textes. Dans le premier texte, Simon a compris que Jésus était le Messie. Et dans le deuxième texte, il comprend qu'il est Dieu. Et en comprenant cela, Pierre a fait un pas important vers la vie de disciple à laquelle Jésus va l'appeler. Chers amis, qui est Jésus pour vous ? Est-il le Messie ? Est-il Dieu ? Est-il votre Sauveur et votre Seigneur ? Ou bien n'est-il au mieux qu'un grand homme, un grand penseur, un grand enseignant, un grand exemple à suivre ? Si Jésus n'est pas encore votre Sauveur et votre Seigneur, si vous n'êtes pas encore convaincu de cela, mais que vous aimeriez l'être, je vous invite à simplement le demander à Dieu, qui vous révélera par son esprit qui est véritablement Jésus. Il le fera. Et quand Jésus deviendra pour vous qui il est vraiment, alors votre vie changera. Ça mériterait quelques explications, mais si vous voulez, on en discute. J'aimerais encore, pour terminer ce point, simplement souligner les manières infiniment variées que Dieu a pour toucher chacun de nous. Pour certains, ça sera le témoignage de quelqu'un. Pour un autre, ça sera un verset, une parole biblique, une circonstance. Pour un autre, encore un miracle, comme pour Simon-Pierre. Notons que Jésus est allé chercher Pierre dans le domaine qu'il connaissait le mieux, c'est-à-dire la pêche. Ce miracle de la pêche miraculeuse n'avait pas pour objectif d'enseigner à Pierre une nouvelle technique extraordinaire pour prendre plein de poissons. Ce n'est pas l'intention de Jésus. Ni même de remplir leur garde-manger pour quelques semaines pour qu'ils puissent les suivre. Bien que. Mais d'attirer l'attention de Pierre et des autres sur sa personne. C'est ça le but du miracle, d'attirer l'attention sur qui est vraiment Jésus. Comment impressionner Simon-Pierre ? Tout naturellement avec une pêche hors du commun. Quelle pertinence ! Dieu s'est adapté son appel à chacun de nous. Il sait nous rejoindre où nous sommes, dans nos circonstances, et où nous en sommes, dans notre cheminement avec lui. Et parce que les choses sont ainsi, mes amis, il y a de l'espoir pour chacun de nous. Le troisième prolongement suit logiquement le second. Parce que comprendre qui est Jésus, et j'entends par là comprendre avec le cœur et pas seulement avec l'intelligence, nous amène à comprendre qui nous sommes aux yeux de Dieu. Simon dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Quand Simon-Pierre a compris qui était Jésus, il a commencé à se voir tel que Dieu le voit, c'est-à-dire pécheur. Il a compris sa misère, il a compris son indignité, il a compris son péché, et la seule chose qu'il pouvait dire en tombant à genoux, c'est « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Pour bien suivre le Seigneur, pour bien répondre à son appel, il est indispensable de se voir tel que Dieu nous voit. La conviction d'être pécheur est indispensable. Et sans elle, je ne suis au mieux qu'un sympathisant de Jésus. Notons que c'est toujours Dieu qui nous convainc de pécher. L'homme ne peut pas arriver à cette conviction de péché par lui-même. Il faut l'action de Dieu par son esprit dans les cœurs. Et ainsi dans la barque, c'est Jésus qui a pris l'initiative, qui a amené Simon-Pierre à se reconnaître pécheur. Notons enfin que la conscience de notre péché doit nous amener à Jésus ou à Dieu et non pas nous en éloigner. Quand je comprends que je suis perdu à cause de mes péchés, alors je peux commencer à comprendre quelque chose de la grâce de Dieu qui m'est offerte en Jésus et m'y ouvrir. Quand je comprends que mon péché me sépare de Dieu, me rend ennemi de Dieu, alors je peux commencer à comprendre quelque chose de cet amour de Dieu qui a donné Jésus pour enlever tous les obstacles qui me sépare de lui. Oui, la conscience de notre péché doit nous amener à nous approcher de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quand Pierre dit « Seigneur, éloigne-toi, Jésus n'est pas parti. Jésus n'est pas parti. Et il n'a pas dit à Pierre de partir, mais il l'a appelé à le suivre, appelé à le servir. Et cela nous rappelle que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Si je me crois juste, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de son salut. Pourquoi faire ? Je suis juste. si je me sais pécheur, je comprends mon besoin de Dieu. Jésus dira, c'est les malades, ce sont les malades, pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Avez-vous déjà compris que Dieu vous voit pécheur ? Vous êtes-vous déjà jeté aux pieds de Jésus pour recevoir sa grâce ? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce qui vous retient de le faire maintenant ? Je termine avec ce quatrième et dernier prolongement. Pour bien suivre Jésus, je dois enfin quitter tout ce qui me retient de le faire. Si nous sommes tous appelés à suivre Jésus, nous ne sommes pas tous appelés à servir de la même manière. Certains suivent Jésus et le servent en restant là où ils sont, là où Dieu les a placés. Alors que d'autres quitte tout pour servir ailleurs. C'est le cas de Simon-Pierre et des autres disciples dans notre texte, puisque nous avons lu à la fin, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Si les choses matérielles peuvent parfois nous retenir, si des conditions de vie peuvent parfois faire obstacle, en réalité, les obstacles majeurs à la suivance du Christ sont essentiellement dans notre cœur. C'est là que tout se joue. C'est dans notre cœur. Et ces obstacles-là sont les plus durs à franchir. C'est par exemple notre indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est par exemple notre orgueil naturel qui nous empêche de nous humilier devant Dieu et de nous reconnaître pécheurs. C'est aussi nos passions, nos idoles, nos attachements aux choses de ce monde qui prennent la place de Dieu dans notre cœur et qui nous empêchent de véritablement nous attacher à Jésus. Jésus dira un jour à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même. » Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre Jésus, pour bien le suivre, il y a des renoncements à faire. Il y a des choses que nous devons quitter. Il y a des reniements à soi que nous devons opérer. Mais tout cela, c'est pour un plus grand bien. C'est pour un plus grand bien. Et ce plus grand bien, c'est Dieu lui-même. C'est son amour, c'est sa grâce, c'est son pardon, c'est le salut qui se trouve en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle que Dieu nous offre par la foi en Jésus. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.